Allez, on y va. Donc, c'est le cours de doctrine appliquée, numéro 2 de cette année 2020. On est en 2020, vous imaginez ? Hein ? J'ai entendu des statistiques assez effroyables pour la France. Peut-être je vais me tromper, mais il disait qu'aujourd'hui, en France, il y a plus d'une personne sur 5 qui a plus de 65 ans. Mais dans 20 ans, ça sera une personne sur 3 qui aura plus de 65 ans. Dans 20 ans. Dans moins de 20 ans. Dans 15 ans, je crois. Vous imaginez ? Donc, et dans 30 ans, il n'y a plus la France. Non. On ne sait pas ce qui va se passer. Dans 20 ans, dans 30 ans. Alors, Geneviève, elle ne s'inquiète pas trop. Elle se dit, dans 20 ans, dans 30 ans, je ne serai plus là. Ça, tu ne sais pas. Si tu vis aussi longtemps que tes parents, tu seras toujours là, Geneviève. En tout cas, on est là aujourd'hui. Et comme tu le rappelles, François, on est là parce que tu as un plan. Et il n'y a rien de plus merveilleux qu'en tant qu'être humain de découvrir le plan de Dieu pour nous. Parce que nous, on en a des plans. On en a plein des plans. On en a plein des projets. Et souvent, ces plans et ces projets nous amènent dans des impasses, dans des voies de garage, dans des problèmes. Hein. La Bible nous met en garde en qui nous plaçons notre confiance. Dans Jérémie chapitre 17, il est dit « Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme ». Et malheureusement, on dirige nos voies, on dirige nos vies avec nos pensées, avec nos expériences, avec nos émotions. Et on parle de ça en ce moment, justement, la gestion des émotions. Et j'ai deux questions. On ne va peut-être pas traiter les deux ce soir, mais en tout cas, on avancera sur ça. La première, c'est pourquoi devons-nous apprendre ou grandir dans la maîtrise de nos émotions. Et la deuxième, c'est comment avoir le contrôle de soi, ou avoir la maîtrise de soi, ou posséder, en tout cas, avancer. Parce que personne ne peut dire qu'il a la totale maîtrise de lui-même. Hein, selon les situations, les circonstances, c'est facile de comme on dit, péter un câble, en langage familier. On voit ça partout autour de nous. Et les gens, souvent... À un moment donné, ça disjoncte dans les neurones, dans le cerveau, dans la tête, parce qu'il y a une accumulation de choix, de décisions, de circonstances, et ils se retrouvent dans une impasse, ils se retrouvent dans une prison, ils se retrouvent dans leur prison, ils se retrouvent dans des circonstances qui sont trop, trop lourdes, trop douloureuses, trop impossibles, sans but, sans sens, sans espérance. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui consultent des psychiatres, des psychologues, qui ont des problèmes psychologiques graves. Hein, mais parce qu'on a quelque part oublié de se tourner vers la sagesse de Dieu, parce qu'on pense que la nôtre est suffisante. Et pourtant, la Bible nous met en garde. Hein, la sagesse des hommes, dans Jacques chapitre 3, je vais commencer avec ce texte, Jacques chapitre 3, qui parle de deux sagesses, deux sortes de sagesse. L'homme a de la sagesse. On a des fois, on prend des décisions, je veux dire, pas juste émotionnelles, on prend des décisions avec une forme de sagesse. Mais cette sagesse, elle est terrestre. Et voici ce que la Bible déclare par rapport à ça. Et c'est bien de l'entendre. Il est dit, au verset 15, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » C'est fort, quand même. La sagesse de l'homme, la sagesse naturelle, elle est diabolique. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un derrière qui pousse, qui contrôle, qui manipule et qui essaye de nous égarer, de nous tromper. Verset 16. « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. » Donc il y a une différence entre la sagesse d'en bas et la sagesse d'en haut. Ok, donc ce soir on va surtout essayer de voir, et j'ai quelques exemples que j'aimerais partager avec vous dans l'Ancien Testament en particulier, et pour étayer ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on essaie de trouver. L'intérêt de la parole de Dieu, c'est d'essayer de connaître les pensées de Dieu, c'est d'essayer de connaître le cœur de Dieu, c'est d'essayer de connaître la révélation de comment il fonctionne, comment il pense Dieu. parce que qui il est, qui on est en lui. Hein. Le premier exemple qu'on va regarder ensemble, c'est dans Genèse chapitre 37. C'est l'histoire de Joseph, vous connaissez un petit peu l'histoire de Joseph. Peut-être pas tout lire le texte, ça serait peut-être un petit peu long, mais pour replacer l'histoire, Jacob donc, a fui sa famille, il a volé le droit, la bénédiction, il a racheté le droit d'aînesse de son frère, et il a dû fuir parce que son frère Ésaü voulait le tuer, hein, parce qu'il s'est senti trompé. Donc les problèmes de famille, ça a commencé déjà là. Hein. Et pourtant, c'est le peuple, c'est la descendance que Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein. Donc déjà, voilà, il y a eu des, ça commençait pas très bien. Et puis finalement, il va revenir se réconcilier avec son frère. Et puis là, avec Laban, son beau-père, il a été un petit peu trompé parce qu'il voulait épouser Rachel. Puis finalement, il a eu d'abord sa sœur aînée, Léa. Puis finalement, après, il a pris Rachel. Puis après, comme il n'arrivait pas à avoir des... Il y en a une qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle a pris une servante qui a donné... Finalement, il s'est retrouvé avec 4 femmes et 12 garçons. Et une fille. Et les problèmes... on continuait, d'accord. Verset 2 du chapitre 37, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, donc ça c'était les servantes et les femmes qu'il a pris après, femmes de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Il rapportait les propos de qui? De ses frères, d'accord. Donc il y avait des tensions entre les fils et le papa, Jacob déjà. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. En parenthèse, c'était le signe ou le symbole d'une sorte d'autorité qu'il allait laisser à son fils Joseph. D'accord ? Alors imaginez les réactions. D'accord ? Parce que quand on parle d'émotion, c'est que souvent nos décisions émotionnelles, elles sont en réaction à des situations, à des paroles, à des circonstances, à des actes qui nous touchent de plus ou moins près. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Là, il y a une émotion qui arrive, une émotion que le cœur de l'homme connaît bien, c'est la haine. La haine qui va être à la source de leurs décisions, parce qu'ils ne vont pas savoir comment gérer ces émotions-là. Est-ce qu'il n'y a pas de la part de Jacob le fait de faire ses différences, de marquer ses différences, est-ce que ce n'est pas une faute, est-ce que ce n'est pas une erreur de la part de Jacob? Certainement. Bien évidemment, si en tant que parent vous faites des différences, et pourtant chaque enfant est unique, et chacun vous avez peut-être une relation particulière, mais voilà, il faut avoir de la sagesse. Justement pour la sagesse d'en haut, pour savoir éviter de faire ce genre de différence, parce que c'est tellement destructeur. Parce que ces jeunes gens là, ils n'étaient peut-être pas si jeunes que ça d'ailleurs, mais ils n'ont pas su gérer ça, hein, ou ils n'ont pas en tout cas eu la sagesse d'en haut pour savoir gérer ça. On continue l'histoire. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. En résumé, les songes, c'est que Dieu lui révélait d'avance qu'il allait régner sur ses frères. Et ça, alors là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, d'accord ? Verset 8, ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage. Donc je veux dire, alors la première réaction qu'on soit touché, qu'on ait peut-être une première réaction de haine, on est des êtres humains. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça après ? Et c'est ça le problème. C'est que là, la haine était là et toutes les occasions ont été bonnes pour l'alimenter. Et visiblement, il semble qu'ils devaient avoir des petits temps de questions-réponses ensemble. En tout cas, des discussions par rapport à leurs frères. D'accord ? Et apparemment, ils avaient des mauvais propos parce que Joseph les rapportait. Donc ça devait... ils ont nourri cette haine. Et chacun a dû... Ah oui, mais moi, ça me fait ça. Ah oui, mais moi, ça me fait ça. Ah oui, ben, t'as raison. Ah ben oui, ben... Et quelque part, cette émotion, au lieu de la maîtriser, elle est devenue elle qui les a maîtrisées. D'accord ? Donc, on avance un petit peu, verset 11. Il raconte un autre rêve, là, carrément, là. Même la lune et le soleil. Donc, Abraham et sa mère se prosternent. Alors, là, même Abraham, il dit, voilà, calmos, Isaac. C'est Isaac qui le reprend. Son père, Isaac. Donc, ses frères eurent, verset 11, de l'envie contre lui. Donc, tout ça, c'est comme un monstre qui se nourrit, qui est alimenté par des discussions. Et je vous dis pourquoi ils ont des discussions, parce que au verset 18, en fait, son père va l'envoyer pour... Jacob va l'envoyer pour apporter de la nourriture à ses frères. Et donc, il le voit venir de loin, verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Donc, ils vont discuter. Il y en a un qui dit, oh, il arrive! Oh, il est là, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, mais si on lui faisait la peau! Évidemment... Et à mon avis, ils en ont déjà eu parlé de ça. Parce que ils auraient dit, mais attends, t'es fada ou quoi ? C'est que c'était tellement nourri, c'était tellement... La haine était tellement forte, la rancune, la envie, la jalousie, toutes ces émotions les dominaient tellement, et c'est le danger pour nous. C'est que quand nos émotions nous dominent, on est prêt à faire... Je veux dire, on se retrouve dans une situation d'insensé. D'accord ? Et malheureusement, aujourd'hui... Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais les conflits entre les personnes, souvent, se terminent souvent très violemment parce qu'il n'y a pas cette gestion des émotions. Tu m'as écrasé l'orteil, moi je vais t'écraser le pied, tu m'écrases le pied, je te coupe la tête. Et voilà, je veux dire, on monte tout de suite les incivilités en voiture, le gars il sort de la voiture, il va lui casser sa tête. Et je veux dire, on arrive dans des choses parce qu'on ne sait pas gérer. D'accord ? Parce qu'on n'a pas, les pensées de Dieu, donc on verra que c'est important. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre à avoir la maîtrise de soi et de faire attention à nos émotions et de savoir qu'elles ont une influence sur nos choix, mais qu'elles ne doivent pas conduire totalement nos choix. On peut avoir une première réaction, mais après on doit savoir s'arrêter. Et la parole de Dieu nous le dit dans le psaume 46, verset 11, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » D'accord ? Et là, ils ne se sont pas arrêtés. Là, ils étaient emportés. Et souvent, c'est là aussi où les discussions qu'on entretient les uns avec les autres, si ce ne sont pas des gens spirituels, c'est nos blessures qu'on entretient. C'est nos émotions qu'on nourrit. Et on essaye de les apaiser en trouvant quelqu'un qui va être dans notre sens. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre émotion va devenir encore plus forte et encore plus dominatrice sur nous. D'accord ? C'est pour ça que la communion des saints, la communion fraternelle, où il y a une crainte justement de ne pas être familier les uns avec les autres, de ne pas se connaître selon la chair, mais d'amener la pensée de Dieu, d'amener le cœur de Dieu, d'amener la grâce et la miséricorde et la sainteté de Dieu et le cœur de Dieu, c'est tellement important. Avec qui on passe du temps, avec qui on discute et de quoi on discute. Et c'est pour ça que j'aime vous dire, quelquefois, il y a des discussions qui sont juste naturelles et charnelles et diaboliques. Et j'aime vous dire, combien de fois on a entendu ça ? Ça commence autour d'une tasse de café, entre deux femmes, trois femmes, et tac, tac, tac. Alors, je dis les femmes parce qu'elles parlent beaucoup plus que les hommes, mais ça peut arriver pour les hommes pareil, là c'était des hommes. D'accord ? Mais on commence à discuter, tac, 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 un commentaire, un machin, on parle de quelqu'un, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de... Et vous savez, des fois, pour aller bien, il faut qu'on enfonce les autres. Parce que là, nous, on est quand même mieux. C'est comme ça que l'homme fait. D'accord ? Hein ? Et on crache du venin sans s'en rendre compte. On calomnie, on parle. Et ce genre de discussion, ben, on parle peut-être mal de son mari, ou mal d'un enfant, ou mal d'un frère dans l'église, ou parce qu'on a des problèmes. Des problèmes, il y en a. Mais comment on règle ça ? D'accord ? Et souvent, parce que c'est l'émotion, on est pris par les émotions, on n'est pas vigilant et on se laisse emporter. Et souvent, le problème, c'est que nos paroles dépassent. Et là, carrément, leurs paroles, je peux imaginer qu'ils sont presque pris au... Attends, on va le tuer. Et puis après, il y en a un qui a... Ah ben oui ! Et c'est ce qu'ils étaient prêts à faire. Alors, il y en a un, le frère aîné qui était... Ruben, pourtant, il avait des problèmes aussi, mais sur ce coup-là, il a épargné la vie de son frère. Hein, donc, ils l'ont mis dans une fosse parce qu'après, ils voulaient le libérer. Puis quand il revient, en fait, entre-temps, ils sont réunis. Ils disent « Pourquoi tu es notre frère ? On n'a qu'à le vendre comme esclave. » Il y a une caravane d'Ismaélites qui passait par là et ils l'ont vendu comme esclave. D'accord ? Et quand Ruben revient et qu'il voit que, voilà, il n'est plus là, il dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Alors, tu te dis, là, au verset 18, ils se dirent l'un à l'autre, donc vous voyez, ils discutaient au verset 19, ils se dirent l'un à l'autre « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Voilà comment il appelait, le faiseur de songes qui arrive. Donc, ils discutent ensemble. D'accord ? Ils ont des projets ensemble. Et des projets, malheureusement, qui sont nourris dans la haine et dans la jalousie et qui vont les conduire dans la folie. Verset 20. « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Et vous savez, quelquefois, on voudrait, pour régler le problème, si on tue la personne, si on enlève le problème, si on enlève ce qui nous fait mal, on n'aura plus mal. Si on enlève ce qui nous rend jaloux, on ira bien, n'est-ce pas ? En fait, ce qu'on veut, c'est aller bien émotionnellement. Mais sans se rendre compte qu'une solution naturelle, c'est-à-dire terrestre, charnelle, diabolique, va les mettre dans plus d'embarras et plus de souffrances que ce qu'ils n'avaient pu penser ou imaginer. Et c'est comme un cycle infernal dans lequel on rentre, dans lequel c'est comme une addiction, on rentre dedans et on est prisonnier de ça et on s'enferme et les conséquences, c'est qu'ils vont faire, il va falloir maintenant justifier que Joseph n'est plus là. Donc un gros mensonge, d'accord ? Un gros mensonge que le papa Jacob va avaler. Et pendant des années, il va pleurer son fils, pensant qu'il est mort alors qu'il n'est pas mort. Mais imaginez la vie qu'eux, ils ont dû vivre. En voyant le père, parce qu'il est dit au verset 34, quand Jacob donc, reconnaît qu'ils ont tué un agneau, ils ont trempé sa tunique, ils ont déchiré sa tunique, ils ont trempé dans le sang d'un agneau, et ils ont envoyé la tunique en disant « Est-ce que ça ne serait pas la tunique de Joseph ?» Et voilà, donc... Et quand il voit ça, il dit que c'est son fils qui a dû être dévoré par une bête féroce. Donc le mensonge, le beau mensonge, est cru, est reçu. Et donc, verset 34, « Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils. » Au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Là, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que Dieu, dans tout ce qu'on... Il a quand même toujours sa main. Là, il y en a un qui est victime de la méchanceté de ses frères. Qui aime être victime de complots, de méchanceté, de la part d'autres personnes ? Personne. D'accord ? Ça nous met hors de nous. Injustice, on ne supporte pas. Si c'est les autres qui la subissent, ça nous dérange moins. Mais quand c'est nous, c'est impossible. D'accord ? Et pourtant, Joseph, il avait une douceur. Il a accepté. Il n'a pas accepté avec joie. Il ne devait pas dire « Ah, c'est super, ils me vendent comme esclave en Égypte. Ah, bah voilà !» Non, il a dû... Apparemment, il a crié pour que ses frères changent d'avis et le vendent pas comme esclave. Mais Dieu était avec lui. Et j'aimerais vous dire que quand on subit des injustices, Dieu est toujours avec nous. D'accord ? Et parce que lui, il sait ce que c'est l'injustice. S'il y en a un qui a subi la plus grande injustice que quelqu'un ait jamais subie, c'est Christ. D'accord ? Et lui, le juste est mort pour les injustes. Hein, Pierre nous dit. Donc lui, il bien sûr qu'il sait ce que c'est l'injustice. Donc il arrivera dans nos vies qu'on va vivre des injustices. Ça arrivera, c'est arrivé, ça arrive et ça arrivera. Maintenant, comment on va vivre ça ? Ben Joseph, lui, il a su se confier en Dieu. Il a su s'appuyer sur Dieu. Il a su trouver en Dieu la ressource pour ne pas devenir amer, parce qu'il aurait pu devenir très amer contre ses frères. D'accord ? Et dès qu'il... Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous encourage à le lire, hein, c'est extraordinaire, cette histoire de Joseph. Mais Joseph va user de miséricorde et de grâce pour ses frères. Mais vis-à-vis de ce qu'ils lui ont fait, S'il avait agi avec une sagesse naturelle, il se serait vengé. Et bien vengé. Et il avait l'occasion, il avait le pouvoir de bien se venger et de bien les faire souffrir et de bien leur rendre la monnaie de leur pièce. Mais il leur a rendu le bien au lieu du mal. D'accord ? Parce que lui, il a su justement rencontrer Dieu. Et dans ses émotions, il a su apprendre à se confier en Dieu et à laisser Dieu lui faire justice. Et c'est ça la clé. Enfin, une des clés. C'est que quand on croit en Dieu, quand on croit en Dieu, ça change tout. Parce que si on n'a personne pour nous défendre, il faut qu'on se défende. Mais si on a quelqu'un au-dessus de nous, qui est en contrôle de tout, qui permet des fois des injustices, d'accord ? Puisqu'il laisse les hommes libres, et que les hommes, malheureusement, sont tournés plutôt vers le mal, donc il y a des injustices qui sont faites, qui sont produites. D'accord ? Donc on est victime. Mais avec Dieu, on peut triompher de ça. Mais pas triompher en se vengeant et en montrant qu'on avait raison, qu'on était victime. Triompher en grandissant en Dieu, en n'étant pas dominé par nos émotions, mais en découvrant les émotions de Dieu, les pensées de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon, et faire qu'au lieu de se venger, il y a une restauration. Et tout le monde triomphe. Parce que si Dieu avait réglé les comptes et fait justice, ok, il a fait justice, il n'y a plus personne. On n'est plus là, nous. Hein. Si Dieu fait justice, s'il n'y a pas la croix de Christ et le sang de Christ et le prix payé pour nos péchés, il n'y a plus personne. Pas un seul juste. Donc, il a fait justice. J'ai fait justice, c'est normal, je suis saint, je suis juste. Ben voilà, ils sont tous pécheurs. Mais Dieu a suscité un peuple au milieu de ses pécheurs. La rédemption. D'accord ? Et si on vit de nos émotions naturelles, on n'aura aucune idée de cette rédemption, de cette grâce, de ce pardon, de cette miséricorde qui peut non seulement restaurer les autres, mais nous édifier. Parce que ça nous fait grandir en tant qu'individu. C'est facile de se venger. C'est plus difficile de pardonner et de restaurer. Et pourtant, c'est ça la grandeur de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on le craint ? Parce que le pardon se trouve auprès de lui. Pas parce qu'il peut faire justice et régler les comptes à tout le monde. Hein. C'est parce que le pardon se trouve auprès de lui. Donc, juste dans cette histoire, on se rend compte que quand on ne sait pas bien maîtriser ses émotions, il y a des conséquences tragiques. Vous imaginez ? Ils étaient prêts à tuer leur frère. Bon, Dieu avait sa main dessus, donc il y a eu un plan pour qu'il soit épargné, qu'il parte. Mais juste vous dire que si on n'est pas vigilant, si on ne laisse pas les pensées de Dieu, si on ne laisse pas la parole de Dieu avoir autorité sur nous, sur nos vies, on va conduire nos vies comme des insensés. On peut être chrétien, né de nouveau, mais on va conduire nos vies comme des insensés. Parce que là, on vient de le voir, hein, c'est un exemple, ils vont commettre un crime odieux qui va produire de la souffrance, de l'hypocrisie, de la fausseté, du mensonge. Vous savez, les non-dits dans les familles, les secrets de famille ? On fait des séries sur ça. Et ça conduit toujours à des tragédies. Il y a toujours des pots cassés. D'accord ? Et même eux, là, vont souffrir. Vous imaginez de voir leur père souffrir à cause d'eux ? Imaginez les relations qu'ils vont avoir ensemble. Tout est faux. Aujourd'hui, on vit dans un monde de faux. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'honnêteté. Hein, c'est tout de la malice, c'est tout de... Voilà. Pourquoi ? Pour couvrir nos méfaits, n'est-ce pas ? Et c'est le mensonge. Et qui est le père du mensonge ? Qui c'est qui se régale dans tout ça, là ? Qui c'est qui nous tient prisonniers ? En fait, ils pensaient être libérés, et ils deviennent encore plus prisonniers. C'est fou. Si je règle mon problème, si je règle le cas de la personne, je suis libéré. Non, non. Ce que j'ai besoin, c'est de rencontrer Dieu qui me libère. C'est que lui qui peut me libérer. C'est pas moi. Moi, je ne peux pas me libérer. Ils vont vivre dans la culpabilité. Parce que mine de rien, ils ont quand même vendu leur frère. Hein. Être esclave, ce n'était pas des conditions les plus réjouissantes. Hein. Surtout que c'était plutôt un prince, lui. D'accord ? Donc, tout ça pour dire que seule la grâce de Dieu peut, la grâce infinie de Dieu peut nous délivrer de notre folie et de nos erreurs. J'aime vous dire, on va en faire des erreurs. On va en faire. Mais c'est pas parce qu'on va en faire qu'on peut dire, oh ben, de toute façon, je fais des erreurs, donc je vais faire des erreurs. Les erreurs qu'on fait, on va les payer cash. Vous comprenez ça? Je veux dire, eux, ils vont payer ils vont porter ça pendant toute leur vie. Et même, j'aimerais vous dire qu'à la fin, lorsqu'il y a la réconciliation qui se fait, la restauration qui se fait, Jacob est toujours en vie, ils viennent tous en Égypte, Joseph prend soin d'eux, ils ont tout ce qu'il faut, grâce à Joseph, qui entre-temps est devenu, de l'esclave qu'il était, il est devenu le premier ministre d'Égypte. Et quand le papa meurt, Jacob meurt, les frères, les 12 frères, les 11 frères viennent avec crainte devant lui en lui disant, mais maintenant que notre papa est... Ils ont peur que maintenant que Jacob est mort, il va se venger sur eux. C'est tragique. Ça veut dire que même une fois qu'ils ont été réconciliés, ils vivent encore dans cette erreur, dans cette culpabilité du passé. Parce qu'on les porte, nos erreurs. Même si on a reçu le pardon, des fois, on vit encore dans ça. Donc, j'aimerais nous encourager que c'est pas parce qu'on est capable de faire des erreurs, faisons des erreurs, de toute façon, il y a la grâce. Bien sûr qu'il y a la grâce. Heureusement qu'il y a la grâce. Mais peut-être que la grâce, on peut la prendre en prévention. D'accord ? Pour nous éviter de faire des erreurs. Pour nous protéger de la folie qui est en nous. On a besoin de la sagesse d'en haut. D'accord ? On a besoin de Dieu. Et donc, pour conclure cette histoire, on va aller à la fin du livre, dans Genèse chapitre 50, au verset 20. Et donc, les frères viennent, ils sont dans la crainte, et Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ?» Aha. Et ça, c'est peut-être un point clé. Suis-je à la place de Dieu? Quand je laisse mes émotions devenir le Dieu de ma vie, je me mets à la place de Dieu. Et là, Joseph, il savait qui était Dieu, il savait quelle était sa place. Pourtant, lui, il était tout puissant. Là. Je veux dire, il n'y avait pas, à part Pharaon, il n'y avait pas plus grand que lui. Hein, c'était presque, pas Dieu, mais vous voyez ce que je veux dire, la position qu'il avait. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais il avait cette humilité parce qu'il a accepté justement de vivre ses injustices et de laisser Dieu le restaurer et l'élever, ce qui a produit en lui un cœur d'humilité et un cœur de brisement et qui va lui donner le cœur de Dieu pour ses frères. Et c'est ce qu'il dit au verset 20. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Donc ça, c'est la réalité. Et je veux dire, quand vous m'avez jeté dans la fosse et vous m'avez vendu, ce n'est pas parce que vous voulez du bien pour moi. Bien sûr, vous vouliez régler mon compte. Et vous étiez jaloux, vous étiez plein d'envie, de colère et de haine. Ça, c'est sûr. Mais il y avait Dieu au-dessus. Et Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Et c'est là où nous, on a besoin de grandir. C'est-à-dire que quand on passe par une injustice, c'est que Dieu a un plan plus grand pour la rédemption de plus de personnes. Et c'est exactement le chemin que Jésus-Christ lui-même a accepté, de souffrir et de mourir. Pourquoi ? Pour la rédemption d'un peuple nombreux. Et donc si nous aussi, Dieu permet quelquefois qu'on vive des injustices, si on en vivra, eh bien j'aimerais vous dire, si on sait s'appuyer sur Dieu, et qu'on sait apporter à Dieu nos émotions, et qu'on ne laisse pas la haine, la rancune, l'anxiété, la colère, l'envie, la jalousie, toutes ces émotions négatives se prendre notre cœur, mais qu'on laisse la grâce de Dieu, on laisse la fidélité de Dieu, on laisse la grandeur de Dieu, on fasse confiance à Dieu, que lui saura nous faire justice. Et quand sa justice va éclater, on sera élevé, et les autres aussi seront délivrés. C'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà, une des raisons pour laquelle on doit prendre conscience de l'importance de la gestion de nos émotions, de la maîtrise de soi, c'est que ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur nos vies, sur notre futur, et ça a des conséquences sur la vie des autres. Parce que j'aimerais vous dire, on est dans un monde tellement égoïste aujourd'hui, les autres, moi je m'en fiche. C'est ma vie qui compte, c'est ma vie qui compte, c'est pas les autres. Mais ça a des conséquences sur les autres. Forcément, ça a des conséquences sur les autres. Et pourquoi les relations avec les gens deviennent de plus en plus compliquées et... Si on regarde, elles sont toutes bancales. Et plus on avance dans le temps, elles sont bancales. Parce que chacun vit pour soi. N'est-ce pas ? Chacun prend des décisions selon ses émotions, selon son intérêt. Parce que c'est ça la tragédie. La tragédie, c'est qu'on prend, regardez bien, les choix que nous engageons en réaction aux circonstances sont souvent émotionnels et égocentriques, et c'est pour notre intérêt, notre confort, 7 points, notre intérêt, notre confort, éviter de souffrir. Alors aujourd'hui, il faut éviter de souffrir. Ça, c'est pas possible. On ne doit pas souffrir. Donc on prend des cachets, on prend des pilules, on prend tout ce que vous voulez, on ne doit pas souffrir. Éviter de souffrir. Ne pas subir d'injustice. Se protéger. Défendre nos droits. Se justifier. On va avoir raison. D'accord ? Et ça, c'est pourquoi ? Parce que le centre de notre univers, c'est moi. J'aimerais vous dire que le centre de l'univers, c'est pas toi, ce n'est ni moi, ni toi, c'est Dieu. Et tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas plié le genou en disant, quand Dieu est au centre, les choses vont se mettre en place. Si c'est moi qui suis au centre, je ne vais pas vous dire, vos relations avec les autres, tôt ou tard, vous allez le payer cash. Et c'est peut-être de mourir tout seul à la fin de votre vie. Vous aurez des enfants, mais ils ne voudront plus vous parler. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les enfants, ils attendent quoi ? Eh, quand est-ce qu'il meurt, le papé, qu'on ait l'héritage ? On va le voir une fois par an pour quand même garder le lien et avoir l'héritage, mais c'est tout. C'est la réalité. C'est la réalité. Ça a toujours été plus ou moins la réalité, mais plus encore aujourd'hui, parce qu'on est tellement centré sur soi. On est tellement le Dieu de notre vie. C'est tragique. Et malheureusement, lorsqu'on prend ses choix en réaction aux événements, aux circonstances, on n'intègre pas la pensée de Dieu, ni la sagesse d'en haut, et on n'intègre pas les provisions divines, les promesses de Dieu, la solution de la prière. On n'y pense pas. Et on oublie, on prend une vision, on prend des décisions à court terme. C'est là, maintenant, là. Maintenant, je prends la décision. À long terme, de toute façon, il n'y a plus rien après. Long terme, on s'en fiche. C'est quelque part. Je veux dire, il faut être conséquent avec ce qu'on nous fait croire. Ou ce que le monde a choisi de croire. S'il n'y a plus rien après, les conséquences, il n'y a pas de conséquences. Est-ce que Hitler a des conséquences aujourd'hui ? Pas de conséquences. S'il n'y a rien après, il n'y a aucune conséquence pour lui. Il a vécu qu'une belle vie, lui, de son point de vue. On n'est pas d'accord, évidemment. Il avait l'esprit de l'antichrist, de la destruction, de la mort, de la méchanceté, de la tyrannie. On est bien évident. Mais s'il n'y a rien après, s'il n'y a pas Dieu, qui va payer les pots cassés ? Mais parce qu'il y a Dieu, nous on sait qu'il va y avoir, il va y avoir des règlements après. Et ça appartient à Dieu, pas à moi. Alors, on ne pourra jamais éviter la première réaction naturelle, mais on est appelé à réfléchir, à penser, et comme je disais tout à l'heure, à savoir s'arrêter. Dans un monde qui va de plus en plus vite, où on enchaîne, on ne s'arrête pas. On passe à autre chose. Un problème, hop, voilà, on passe à autre chose. Et puis à un moment donné, vous imaginez ? À un moment donné, si dans le cerveau, là, ça commence à... Ça disjoncte. C'est pas étonnant que ça disjoncte. Et que les gens, ils déconnectent. La fin du verset, c'est arrêter. Ça commence par arrêter, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Attends, il y en a un qui est en contrôle. Au-dessus de tout. Et c'est en lui que je me confie. Et ça, Joseph a su le faire. Et il y a une différence entre Joseph et ses frères. Et, à choisir, vous préférez quoi ? Être Joseph ou être parmi ses frères qui l'ont trahi ? On préfère être Joseph. Moi, mais j'ai pas envie de vivre les souffrances par lesquelles il est passé. Mais peut-être que Joseph est Joseph parce qu'il a accepté de passer par ça. Et ceux qui ne veulent pas accepter de passer par ça, ben, ils sont des Ruben, ils sont des Judas, ils sont des Lévi, ils sont des traîtres. Merci. Je cherchais trahisseur, mais c'est pas français. Merci. Je voudrais dire. Quelle heure il est là ? On va lire un autre exemple, encore une fois, juste pour vous montrer que. Et c'est le premier des exemples tragiques. Hein. C'est dans le livre de Genèse, au chapitre 4. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Vous connaissez certainement l'histoire. Hein. On va la lire parce que c'est assez rapide. Donc, verset 1, Adam connut Ève, sa femme, elle a conçu et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, alors au bout de quelques temps, tu dis « Bon, c'est quoi, 3 semaines, 15 jours ?» Non, non, c'est peut-être 20, 30, 40 ans. Hein. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc, c'est normal, il est laboureur. Et Abel, de son côté, en fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Quand même, Dieu l'exagère. Et s'il y en a un des deux qui a peut-être le plus travaillé, c'est quand même Caïn. Je veux dire, pour faire pousser les légumes, creuser la terre, mettre des graines, arroser, machin, enlever les mauvaises herbes. Enfin, je veux dire, faire pousser des légumes. Bon, s'occuper d'un troupeau, c'est quand même du travail aussi. Mais je veux dire, bon, voilà, ils s'en occupent, ils mangent, tu les prends, tu t'en occupes un peu, mais c'est pas pareil. Prendre un agneau. Et quelle est la différence entre le sacrifice de Caïn et celui d'Abel ? On dit, ah ben, ils ont tous les deux travaillé dur, voilà, ils offrent leur... Hein? Et il y a pourtant une différence. C'est qu'il faut remonter à l'histoire. Pourquoi on fait certaines choses? Parce qu'il y a une histoire. C'est pas nous qui inventons le monde et... je veux dire, on arrive dans ce monde, il y a déjà une histoire. On s'inscrit dans cette histoire. Et si on est là, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous, sinon on ne serait pas là. D'accord ? Et l'histoire avant, c'est Adam et Ève. Et Adam et Ève ont péché. Et le péché est entré dans le monde. Et la mort est entrée. D'accord ? Et là, il y a une séparation. Ils ont dû quitter le jardin d'Éden. Et il y a eu une malédiction, justement sur la terre. Et ça sera, c'est à la sueur de son front que les gens vont maintenant devoir survivre, vivre sur la terre. D'accord ? Et face au péché qu'ils ont eu, la première chose qu'ils ont fait, la première action, c'était de se couvrir de feuilles de figue. D'accord ? C'est-à-dire d'essayer de se protéger de leur nudité, d'accord ? De leur péché, de leur culpabilité, de leur honte. Et Dieu, lui, est intervenu et il les a couverts d'habits de peau. Et c'est là qu'il nous parle du premier sacrifice. Dans Genèse chapitre 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Et les habits de peau, ça veut dire que y a un animal innocent qui est mort. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient végétariens. Hein. Ils ne mangeaient pas les animaux. Hein. C'est après que c'est arrivé plus tard avec Noé. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est que déjà, c'est l'image du sacrifice. Les vêtements de l'agneau, c'est l'image déjà de l'agneau de Dieu qui est le seul capable, le seul peut ôter le péché du monde. D'accord ? Et les œuvres de Caïn, pour lesquelles il a transpiré et il a travaillé dur pour les avoir, c'est une autre forme de justice. C'est une justice propre. C'est la justice où l'homme, par ses efforts, par son intelligence, par ses capacités, par son travail, par sa transpiration, il arrive presque à se justifier devant Dieu. Et ça, c'est la base de la religion de beaucoup d'hommes aujourd'hui. C'est que les hommes pensent que par leurs œuvres, ils vont se justifier devant Dieu. Mais ça, c'est un mensonge. La seule personne qui peut nous justifier, c'est Christ et c'est son sang. Par son sang qu'on peut être justifié. D'accord ? Et c'est pour ça que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu par nos propres efforts. C'est que par le sang de Jésus-Christ. Jésus est le seul chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas par tes œuvres que tu t'approcheras de Dieu. Ce n'est pas tes bonnes œuvres qui vont te justifier devant Dieu. Ce n'est pas tes bonnes œuvres qui vont te donner des bonnes émotions. Et qui vont te rendre agréable à Dieu. Je ne dis pas que les œuvres ne sont pas importantes dans la vie chrétienne. Mais ce n'est pas le moyen de se justifier devant Dieu. Si on peut être justifié devant Dieu, c'est que par grâce. Et uniquement par grâce. Donc, verset 6, « Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi domines sur lui. » Et là, c'est là, on va bientôt conclure, mais pour ce soir, on se retrouve devant l'action, la décision. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand on réalise qu'on a fait une erreur, qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas fait le bon choix, qu'on a pris une décision par orgueil, par fierté, parce qu'on veut exister. Parce que souvent, j'aimerais vous dire, les motivations profondes qui poussent les gens à faire des choix, il y a la peur, la crainte du rejet, la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas avoir la valeur, de valeur. D'accord ? C'est ce qui a motivé les frères hein, de Joseph. Ils se sentaient dévalorisés. D'accord ? Donc ça, c'est, on n'y pense pas, mais c'est des motivations inconscientes si profondes qu'elles motivent les autres. Elles sont à la source des autres. D'accord ? Et l'insécurité. Mais j'aimerais vous dire qu'en Christ, on a une pleine sécurité. Et en Christ, on est accepté dans le bien-aimé. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se battre pour exister, pour être accepté. Et pourtant, les gens, c'est ça leur combat. C'est pour exister, pour être accepté, pour être aimé, pour avoir de la valeur. Mais déjà, nous avons tout ça en Christ. Et quand on le comprend, quand on médite sur ça, quand on se nourrit de ça, lorsqu'on vit une injustice, eh bien, on peut accepter de supporter. On peut accepter cette injustice. Parce qu'on est confiant dans ce que Dieu dit, pas dans ce que les hommes vont dire, dans ce que les hommes vont nous faire, mais dans ce que Dieu a déclaré, dans ce que Dieu a fait. Et c'est ça qui nous donne la force. C'est pas, ne pensez pas que oh, maintenant il va falloir que je trouve en moi la force. C'est pas, vous ne la trouverez jamais en vous, la force. Elle est en Christ, la force. Elle est dans ce qu'il est, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il nous invite à recevoir, à accepter. Et la jalousie a tué combien de personnes ? Ceux qui ont fait l'acte, mais ceux qui étaient jaloux aussi sont morts. Dans leur âme, dans leur relation avec les autres. Ça te tue, ça te rend fou, ça te rend malade. Et là, ça l'a conduit. Là, il avait la possibilité de rebondir. Et c'est ça que je voulais vous dire ce soir. C'est que peut-être notre première réaction ou notre action, c'était pas la bonne. Mais est-ce qu'on va vivre dans l'entêtement ? On va dire, non, moi j'ai raison mieux que Dieu. Moi je sais mieux que Dieu. Il n'a rien compris, il est trop vieux, il est dépassé par. Il ne sait même pas utiliser un ordinateur, il connaît rien. Moi je sais. C'est la force de la jeunesse. Les jeunes, ils disent, mais nous on sait. On sait mieux que vous. Ok, certainement dans des techniques, dans des. Peut-être dans des domaines spécifiques, mais dans la vie en général, c'est de l'orgueil de penser qu'on sait mieux. Et l'homme de penser qu'il sait mieux que Dieu, c'est de la folie. D'accord ? Et, ok, vas-y, qu'est-ce que Dieu peut faire ? Vous mettez à la place de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Nous, on sera à la place de Dieu, tu ne le fais pas. Je t'interdis. Dieu nous a laissés libres. Et voilà. Et il nous dit, mais si seulement vous m'écoutiez, si seulement vous écoutez ce que j'ai à vous dire, si seulement vous vous placez sous mes conseils, votre vie serait tellement différente. Vos relations seraient tellement différentes. Vos émotions seraient tellement saines. Parce que tout ça, après, vous savez, quand tu mets des mauvaises choses, toutes les émotions vont être infectées. Toutes les relations vont être infectées. C'est pour ça que quand on est en Dieu et qu'on a la paix de Dieu, ben voilà, les émotions, elles vont pouvoir se nourrir de ça. Et les relations qu'on va établir vont être autres. Elles vont être basées sur autre chose que simplement l'homme. Il y a Dieu qui rentre en compte. Et qui fait qu'on peut aimer inconditionnellement celui qui n'est pas aimable. Et c'est ce qui va pouvoir lui permettre de changer d'ailleurs. Parce que si tu détestes l'autre, il va rester dans sa justice, il a raison, t'as tort, et chacun est de son côté. D'accord ? Combien de conflits de voisinage ? Là, vous avez entendu la dernière avec ce cheval qui faisait le crottin juste à côté, là. Hein, dans un village, hein, donc et les voisins... Bon, on peut comprendre, j'en sais rien. Enfin, on arrive à des extrémités où... Là, moi, je me souviens quand j'étais adolescent à l'école, c'était la camarade, c'était le père d'une camarade de classe, son voisin, Nana Huma, il a pris le fusil, il a tué son père. Je veux dire, c'est là, il y a 30 ans, hein, 35 ans peut-être. Mais ça, c'est des faits quotidiens. Tout ça parce que justement, l'homme ne veut pas de Dieu. Il est son propre Dieu. Et donc les émotions deviennent son Dieu et il en est prisonnier. Parce que derrière, il y en a un qui s'amuse. Je veux dire, le diable s'amuse. Le père du mensonge, il s'amuse. Et il nous fait croire qu'on sait, il nous fait croire qu'on y arrive. Et ce qui j'ai... Ah oui, un dernier verset. Oui, c'est ça que je voulais vous communiquer. On arrête là. Vous êtes prêts ? On finit ? On peut utiliser les solutions avec la sagesse terrestre, avec nos idées, avec notre raisonnement, avec notre culture, notre expérience, nous, ce qu'on sait. Mais on sait que c'est la sagesse d'en bas qui est terrestre, charnelle, diabolique. On voit ça dans Jacques chapitre 3. Et j'aimerais vous dire qu'on peut utiliser ça, mais notre sagesse, elle est comme notre vie, elle est éphémère. La Bible dit que notre vie est comme une vapeur. Et j'ai trouvé ce verset intéressant dans Psaume 73, verset 3. Le psalmiste dit « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Et c'est vrai que ça semble à court terme que celui qui se bat, celui qui se fait justice, celui qui règle les comptes, celui qui laisse ses émotions devenir son Dieu, des fois, il a l'impression que lui, il réussit, quoi. Et il peut réussir pour un temps. Mais comme la vie est qu'une vapeur, d'accord, peut-être que sur cette 30, 40, 50, 60 ans qu'il va vivre, il va peut-être avoir une forme de... Voilà. On aura l'impression qu'il a l'embonpoint, qu'il a tout réussi, que tout va bien pour lui. Mais c'est quand il a considéré la fin. C'est qu'à un moment donné, il y a une fin. D'accord ? Il y a un jour où on paye. Et là, il perd tout ce jour-là. Et comme la vie, c'est juste ça, une vapeur. Hein, dans le psaume 90, verset 2, il dit, verset 4, car mille ans sont à tes yeux comme un jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe et elle sèche. La vie des hommes, c'est ça, c'est comme elle est là, c'est comme une herbe, un matin elle fleurit, paf, elle est coupée, c'est terminé. Ok, tu veux réussir ça et tu veux t'enfermer dans avec ta raison. Ok, tu as raison, mais à la fin t'as raison de quoi? À la fin, il y en a un qui triomphe, c'est Jésus-Christ, c'est la vérité. Et tout ce qui est dans le mensonge, et tout ce que ta vie aura semé de... Quand toi, tu es le Dieu de ta vie, ben, tu auras détruit les gens tout autour de toi. Au lieu d'élever, au lieu d'aimer, au lieu de construire, au lieu d'édifier, au lieu d'avoir des relations, au lieu de former une grande famille, la famille de Dieu, tu auras détruit. Ah, tu seras peut-être au-dessus, comme Hitler, il a fini au-dessus du lot, mais j'aimerais pas passer l'éternité qu'il aura passée. Jamais de la vie. D'accord. Voilà, donc c'était juste pour nous dire, ça vaut le coup de s'arrêter et de dire, j'ai envie de savoir comment, maintenant ce sera la prochaine fois, comment on peut grandir dans la maîtrise de soi, comment on peut apprendre à comment la parole de Dieu nous encourage à la maîtrise de nos émotions. Donc si ça vous intéresse, ben, vous reviendrez la semaine prochaine. En tout cas, merci pour votre écoute et que merci. Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de nous encourager. Merci pour les instructions que tu donnes dans ta parole, les exemples que tu nous donnes. Et Seigneur, on se confie en toi, Seigneur. On se confie en toi parce qu'on sait qu'on a besoin de toi pour nous aider dans cette vie, dans nos choix, dans nos décisions. On sait que c'est les nôtres, mais Seigneur, on veut plier le genou et dire « Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous arrêter. Aide-nous à écouter ce que tu as à dire. Aide-nous à avoir une sagesse qui vient d'en haut, Seigneur, et pas une sagesse terrestre. » Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.